La parole du jour avec Sœur Marina de la communauté du Chemin Neuf.
Chères auditrices, chers auditeurs, un grand bonjour à chacun d'entre vous. La semaine dernière, nous sommes entrés dans le Cantique des Cantiques par le porche du prologue. Cantique 1, 2 à Cantique 2, 7. Dans ce porche, il y a le cœur d'une femme qui se remémore son grand amour et médite sur cette histoire. Et dans ce porche, comme dans le cœur de cette femme, 6 tableaux sont exposés. 6 photos de l'amour. 6, comme les 6 jours de la création en Genèse 1. 6 donc, comme un commencement. Le commencement du cantique et le commencement peut-être de toute histoire d'amour véritable. Chacune de ces photos, comme on l'a vu, est un cliché de l'amour au sens propre et au sens figuré. Il y a un prince, une princesse, puis il y a un berger, une bergère, un roi, une reine, une rose, un pommier, un soldat en pleine conquête et une maladie d'amour. Ce sont autant de déguisements pour le bien-aimé et la bien-aimée, protagoniste du poème. Ceux d'entre vous qui ont eu une compagne, un compagnon, ne l'ont-ils jamais appelé « ma princesse, ma reine, mon lapin, mon chat » ? Donc, comprenons ainsi que dans le cantique, il sera question du pouvoir transformant de l'amour. Pouvoir étonnant qui suscite une question dans le cœur de la bien-aimée. Quel est cet amour qui me traverse et me transforme ? Le porche, prologue du cantique, débouche sur deux maisons, qui sont les deux grandes parties du poème. Ces deux grandes parties alternent des prises de parole plus amples que le prologue. Celui-ci, comme on l'a déjà dit, comme l'ouverture d'une symphonie présentait différents thèmes, le corps du poème va les développer. On va entendre plus longuement, plus finement, le grain et le timbre de voix des deux personnages principaux, elle et lui, mais aussi la voix de ce cœur qui semble, cœur C-H-O-U-R, qui semble élargir la relation amoureuse des deux aux dimensions du monde. On a déjà entendu dans le prologue le cœur féminin des filles de Jérusalem, ou filles de Sion, et on a entendu le cœur masculin des compagnons du berger bien-aimé. Est-ce qu'on entendra aussi la voix de Amour, Ahava en hébreu, ce troisième personnage principal dont le nom est inscrit sur le drapeau de Cantique 2, 4? On va bien voir. Entrons tout de suite dans la première maison du poème, sa première partie, Cantique 2, 8 à 5, 2. Cette grande partie contient 3 prises de parole. D'abord elle, en Cantique 2, 8, 3, 5, puis un cœur, sans doute les filles de Jérusalem, et puis lui. Alors entrons dans la première pièce de la maison. Cantique 2, 8 à 2, 17. Je lis dans cette traduction magnifique de Bayard, où j'ai un peu travaillé aussi de mon côté. Alors, il y aura des petites modifications si vous allez voir. Elle. Une voix, c'est mon amour. C'est lui, il vient. Bond sur les montagnes, saut sur les collines. Mon amour devient gazelle ou encore fan des biches. Il est là, debout, derrière notre mur. Regardant par les fenêtres, guettant par les treillis. Mon amour prend la parole, il me dit « Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. L'hiver est passé, la pluie a disparu. Les fleurs se montrent sur la terre, le temps de chanter est venu. Voix de la tourterelle partout sur notre terre. Les figues fleurent, embaument, les bourgeons de vigne donnent leur senteur. Lève-toi, ma compagne, ma belle, et viens. Ma colombe, entre les failles du rocher, cachée dans les falaises, fais-moi entendre ton visage. Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est suave et ton visage me plaît. » C'est elle, là, qui parle. Attrapez-nous ces petits renards qui dévastent les vignes, nos vignes en bourgeons. Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui. Lui, berger parmi les coquelicots. Avant le souffle du jour, avant que ne fuient les ombres, reviens mon amour, et deviens gazelle ou encore fan des biches, au-dessus des montagnes de l'Alliance. Alors, comme on l'a entendu, la bien-aimée évoque ici une rencontre paradoxale, car elle est un échange de part et d'autre d'un mur, sans qu'aucun des deux ne se voit. Elle décrit l'arrivée de son aimé, mais une arrivée qu'elle perçoit par l'oreille, pas par les yeux. Elle est en effet à l'intérieur de sa maison, et lui vient du dehors, vers elle, bondissant sur les monts. Et il est dans sa course semblable à un faon. On retrouve cette notion de transformation qu'on avait vue dans le prologue. Mais on trouve aussi cette notion déjà vue du halo divin entourant l'un ou l'autre des aimés. En effet, le faon faisait partie, comme la colombe qu'on a vue dans le prologue, du bestiaire des dieux et déesses de l'amour dans le Moyen-Orient antique. À propos de ce bond sur les montagnes, des pères de l'Église ont fait des commentaires magnifiques. Un père de l'Église s'appelle Hippolyte, dit ceci. « Le Verbe divin n'a cessé de bondir. Il a bondi du ciel dans le sein de la Vierge et de ce ventre saint sur la croix, et de la croix aux enfers et des enfers au ciel. » Mais revenons au sens littéral de notre poème. On a vu que la bien-aimée entend son bien-aimé venir à lui, mais elle l'entend parler, il prend la parole. Et elle nous fait entendre la voix dont elle se souvient. C'est une invitation à sortir et à se lever, à faire comme lui, qui dit Cantique 2.9 est debout derrière notre mur. Alors on devine comment la tradition chrétienne a vu ici une préfiguration de la résurrection des morts à la suite du Christ ressuscité. D'autant que, dit le bien-aimé du poème, c'est le matin et le printemps. La lumière renaît de la nuit et il y a tout ce merveilleux recommencement des fleurs et de la verdure. Comment répond la bien-aimée? Eh bien, comme vous l'avez peut-être entendu dans le poème lu tout à l'heure, ou lu à l'instant plutôt, elle ne sort pas de la maison, mais de derrière le mur, elle lui donne rendez-vous. Reviens avant la fuite des ombres. Les commentateurs se demandent, mais c'est quand cette fuite des ombres? Ça pourrait être le midi, où toutes les ombres disparaissent, mais ça pourrait être le soir aussi. La suite du poème, comme on le verra, est nocturne. Il s'agirait peut-être donc du soir. Entrons plus avant dans un commentaire détaillé et quelques notations, par exemple à propos des renards en 2.15. Attrapez-nous ces petits renards. On entend la bien-aimée qui parle après nous avoir fait entendre l'invitation du bien-aimé. Attrapez-nous ces petits renards qui dévastent les vignes, nos vignes en bourgeons. Cette mention des renards renvoie au thème de l'amour menacé, comme on avait vu dans le prologue. Qui risque ici de dévaster l'amour? Sans doute ce clan familial qui cherche à faire des mariages arrangés et qui s'offusque de la liberté de la bien-aimée de suivre l'élan de son cœur. Quelques interprétations à nouveau des pères de l'Église, de ces petits renards. Pour Origène, par exemple, le verset s'applique aussi bien à l'âme qu'à l'Église. Relativement à l'âme, les renards sont les puissances démoniaques qui inspirent des pensées corrompues que les anges ont l'ordre de retirer de chaque âme. Relativement à l'Église, les renards sont les docteurs hérétiques qu'il est ordonné aux docteurs catholiques de réfuter dans les principes de leur sophisme. Toute une époque. Pour Jean de la Croix, peut-être mieux connus de certains d'entre nous. Que signifient ces renards? Eh bien, ils les interprètent comme les maîtres spirituels qui veulent à tout prix obliger l'âme parvenue à un certain stade de sa prière, de sa relation à Dieu, à revenir à des exercices antérieurs où il fallait être très actif dans la méditation, empêchant finalement toute l'œuvre de Dieu dans cette âme, et même la défaisant et l'effaçant. Nous trouvons à la fin de ce premier poème de la Bien-Aimée, au verset 17, une référence à l'Alliance. Je relis le verset 17. « Avant le souffle du jour, avant que ne fuient les ombres, reviens mon amour, deviens gazelle ou encore fan des biches au-dessus des montagnes de l'Alliance. » Alors, ces montagnes de l'Alliance peuvent être comprises dans un sens littéral. Par exemple, la bien-aimée donnerait rendez-vous au bien-aimé sur une certaine montagne de la terre d'Israël, que personne n'a d'ailleurs retrouvée. Mais elles peuvent être aussi comprises dans un sens métaphorique. Elle donne rendez-vous à son aimé sur ses propres seins, qui sont deux collines, deux montagnes. Et il y a un troisième sens, plus allégorique, plus théologique, qui est sans doute visé par cette mention des montagnes de l'Alliance. Eh bien, ce sens, c'est celui qu'on trouve en Genèse 1, 26-27, quand il est question de l'amour entre l'homme et la femme comme le lieu de la plus grande ressemblance entre l'humain et Dieu. C'est-à-dire que l'étreinte amoureuse entre l'homme et la femme est un lieu pour Dieu lui-même. C'est peut-être là aussi un sens à entendre à la fin de ce poème de la Bien-Aimée.